présentation sur les logiciels libres.
Voilà, dans ce jeu, je suis le graphic designer aussi. Je travaille beaucoup sur la documentation depuis 2 années. On va vous expliquer pourquoi. Pourquoi on s'est orienté vers PostManual, c'est la proposition de Adam Hyde. On va peut-être répondre à quelques questions quand ça va se passer d'autre. Un point important pour nous, déjà pour se situer, c'est qu'on a écrit plusieurs livres qui sont édités chez des éditeurs, donc sous contenu propriétaire. Donc ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir ce que ça apporte comme ça, cette unicité.
PostManual francophone est le nom de l'association, mais nous parlons bien de PostManual. J'ai fait des stages en anglais, comme ça vous pouvez le dire. Apparemment, je m'explique si j'avais faute. Qu'est-ce que PostManual? C'est une fondation créée par Adam Hyde. La fondation est née en 2006. Adam Hyde est un artiste digital qui a présenté des formations un peu partout dans le monde et il a écrit ses supports de cours sur un wiki. Il a rencontré des personnes qui aujourd'hui sont des développeurs de la plateforme qui l'ont incité à partager davantage ses supports de cours. Et c'est comme ça que le concept de PostManual est né. Quel est le but de PostManual? C'est une plateforme qui facilite l'édition, la création, la traduction de livres vivants, sous licence libre, de logiciels libres et à propos de la culture libre. Tous les mots sont importants dans cette phrase, mais je vais m'arrêter sur le vivant. Pourquoi vivant? Parce que PostManual est un wiki, tout le monde peut éditer, participer. Donc même après un sprint, le livre continue d'évoluer et de s'enrichir grâce aux contributions des experts, ou des lecteurs, ou des passionnés, et même des développeurs. Quels sont les moyens utilisés par PostManual? Eh bien, la plateforme, qui est un TWiki adapté, donc c'est une plateforme qui permet d'écrire à plusieurs. Elle est multilingue, puisqu'elle comporte plusieurs langues. Il y a l'anglais, le français, il y a des manuels en espagnol, il y a une plateforme en finlandais, en néerlandais, en farsi. Il y a des manuels qui sont traduits dans plus de 40 langues, notamment des manuels vietnamiens également. Et la méthode privilégiée pour rédiger les manuels s'appelle Booksprint. Alors qu'est-ce qu'un Booksprint? On réunit pendant une semaine 6 à 8 auteurs sur un sujet. Et cette méthode permet de créer une immersion des co-auteurs. Et pour écrire un manuel de 250 pages à 300. Les manuels sont de bonne qualité, parce que toute la documentation qu'il y a dans la plateforme soit accessible et de bonne qualité, il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça qu'il y a des co-auteurs choisis, triés et volontaires pour participer à cette aventure. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples de manuels sur la plateforme anglaise. Donc voici la plateforme anglaise, enfin de langue anglaise, donc vous pouvez voir qu'il y a énormément de manuels, il y a plus de 40. Et ça, c'est la partie publique, c'est-à-dire que dans la partie privée, il y a une vingtaine d'autres manuels qui sont en cours d'édition actuellement. La plupart ont été réalisés lors de Booksprint, mais pas seulement. Il y a énormément de personnes qui utilisent la plateforme pour écrire des manuels. Ça, c'est la plateforme publique. Vous arrivez à voir. Maintenant, j'ai oublié. Nous avons parlé de place minimale francophone. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est une association qui est née en septembre de l'année dernière, qui est toute récente. Et nous nous occupons de gérer la plateforme en langue française. Donc nous ne nous occupons pas du développement de la plateforme. Ça, c'est uniquement FLOSS Manual Foundation qui s'en occupe. Nous nous occupons seulement de vérifier et d'aider à créer des manuels ou de traduire des livres en langue française. Je laisse la parole à Frédéric.
Donc voilà, c'est vrai que la question qui se pose souvent par rapport à toutes les solutions qui sont proposées, ou qui bougent, etc., c'est pourquoi utiliser FLOSS Manual ou éventuellement dans des projets pour faire prendre cette orientation-là. Donc je vais expliquer un petit peu notre réflexion par rapport à ça et pourquoi on en est arrivé à cette conclusion, et puis en espérant que ça sera partagé pour vos projets, évidemment. Moi, la première contribution que j'ai voulu faire il y a 7 ou 8 ans, c'était la documentation de GIP, une vraiment très belle documentation, très complète, et qui avait déjà à l'époque un processus de production très établi, en notebook, avec des scripts XSLT pour faire la génération de divers formats. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça dans l'équipe de GIP, je ne sais pas si vous le dites, mais en tout cas, c'est vrai que ça marchait très bien, et il y avait vraiment une lecture attentive de d'autres membres qui améliorait le contenu, etc. Donc je trouve que la méthode de travail était assez intéressante. Et quand ce qui était apparu, j'ai commencé la documentation de chez Mixtape, et j'ai repris cette méthode au début. Et donc c'était sur un notebook de texte. Enfin, je ne sais pas le dire comme ça, c'est assez difficile, mais j'ai fait cet effort. Inkscape, au début, n'était pas un effet très lumineux, donc ça se passait très bien. Mais vu l'étendue de l'équipe, l'évolution de l'équipe d'Inkscape, l'échelle évolue tellement, que c'était impossible pour moi de continuer à documenter seul, et c'est trouvé que chaque contributeur potentiel à la documentation qui me contactait, se retrouvait confronté à deux bouts, et puis au bout de deux jours, sans s'oublier, j'en ai tout, en disant que voilà, si je peux apprendre 600 pages de référence pour pouvoir écrire une documentation simple, c'est un peu compliqué. Surtout dans ces logiciels-là, évidemment, on a déjà eu des présentations avec Schreiber et tout ça, c'est pas forcément des personnes qui vont documenter le logiciel libre. Pas vraiment une connaissance du code, c'est parfois leur faire un petit peu peur, même si derrière, il y a des éléments extrêmement faciles, mais ça ne fait pas à certaines personnes. Et donc, il s'est posé la question de savoir évidemment comment faire autrement. Le wiki, c'est forcément une solution qui était déjà utilisée dans d'autres projets, mais un wiki simple me semble un petit peu trop désorganisé pour vraiment gérer des manuels. Des panneaux de traduction pour s'assurer que quand c'est traduit uniquement, ça va être aussi disponible, que les autres contributeurs des autres langues peuvent s'informer qu'il y a une différence qu'il y a, etc. Donc ça, vraiment, ça semblait un peu pas suffisant. Et Adam Hyde, à ce moment-là, nous a en effet contacté, enfin, contacté Lina surtout pour ce Joshua qui avait été contacté. Et je voulais donc proposer d'utiliser la méthode FLOSS Manual pour écrire un manuel. Tentons l'expérience. Il se trouve que c'était assez concluant. Si vous voulez, pendant 5 jours à Paris, à 7 personnes, et différents pays. En quelques jours, on a produit un manuel. Et ce manuel a continué d'exister dans tous les domaines. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dedans. Et pourtant, la documentation évolue. C'est complètement l'inverse de la situation antérieure. C'était moi seul qui écrivais, et il y avait les autres qui cherchaient à savoir comment écrire dedans. Donc du coup, c'est ça marche très bien. Et donc, ça évolue, puisque là, actuellement, on est en train de prévoir, nous, en tout cas, sur version francophone, déjà plusieurs manuels, plusieurs XP, dont un sur Scribus qui devrait venir d'ici un mois et demi. Et nous, on est très satisfaits, parce que la méthode de Bookstream, une méthode vraiment qui permet à la fois une immersion, qui oblige les gens à travailler très vite, qui permet en temps direct d'avoir des interactions entre les différents contributeurs. Alors évidemment, ça peut se faire par IRC, mais quand on se voit face à face, quand on se met tous derrière un ordinateur, c'est pas pareil que d'être tous derrière le sien. Et donc la méthode permet vraiment de... du Bookstream permet vraiment d'avancer très rapidement, et d'arriver à un moment de se dire bah, où est-ce qu'on en est, dans les 5 ou 6 jours, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va rester à faire. Et puis, ça produit, il me semble, des documents qui sont de qualité assez intéressante, même si ça dépend toujours évidemment de la qualité de l'auteur, de l'écriture de l'auteur, de la connaissance du logiciel de l'auteur. Il y a quand même une différence fondamentale à l'heure actuelle entre ce qui est écrit, grosso modo, dans le manuel, et ce qui est écrit dans la documentation de type de guide, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le guide, c'est plus une aide, donc très technique, une description des fonctions, alors que dans les écrits post-manuels, on a un point de vue plus progressif, plus thématique, qui est plus apte à aider les gens à apprendre réellement le logiciel, à prendre en main le logiciel. Donc même s'il y a une partie de la documentation guide qui est dédiée à ça, globalement la documentation n'est pas basée sur ce point. Donc je pense que c'est important en tout cas. Les développeurs, évidemment, ne participent pas forcément à la documentation parce que c'est pas leur travail. Et puis, en plus, ils ont déjà pas mal de choses pour voir certains projets, c'est pas très nombreux. Mais je pense que pour les utilisateurs, d'avoir des documentations de qualité qui leur permettent de prendre en main un logiciel, ça permet le logiciel, évidemment, de se faire valoir. Ça permet à chacun d'arriver à l'exploiter au mieux. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important.
J'ai oublié de vous parler de la plateforme Francophone. Actuellement, depuis septembre, nous avons eu trois bookprints. Nous avons créé trois livres grâce au bookprint, celui de Processing. D'ailleurs, j'avais 40 exemplaires et lors de mes conférences précédentes, ils sont tous partis au jeu. C'est un livre d'excellente qualité. Donc les manuels, dans le passe manuel, sont téléchargeables, sont librement accessibles et on peut les télécharger. Vous pouvez télécharger le PDF qui vient d'aller chez votre imprimeur et l'imprimer pour avoir une version papier. Ou alors l'acheter via Lulu. Au prix du livre, donc, actuellement ce livre-là est à 7 euros. Nous, de temps en temps, nous faisons des commandes de groupées. Un centre de formation de contact, nous imprimons une centaine de manuels, comme ça, ça réduit les coûts d'impression du livre. Donc, c'est comme ça que nous avons eu deux fois. L'impression de livres sur Processing. Nous avons également un manuel qui a été rédigé sur Pure Data. Anne a participé au stream de l'ICI. Et Alexandre d'ICI également a participé à la stream. Je n'ai pas de photo avec ça. Voilà une photo lors de votre sprint qui a été faite à ça. Et il y a également un sprint qui a été réalisé sur le stand de box. Je ne vais pas encore imprimer le manuel. Le manuel est évidemment accessible. Et voici tous les manuels qui sont en cours de traduction ou d'édition. Par des personnes, spontanément, soit par des groupes. Et nous avons donc prévu pour juillet, un sprint sur non possible. Nous sommes ici pour vous présenter Place Mondiale afin de proposer une plateforme pour accueillir la documentation de tous les logiciels qui sont en train de présenter ici. C'est une plateforme qui permet l'écriture à distance et à plusieurs, et qui est facile à utiliser. Comme ça, les co-auteurs se concentrent uniquement sur le contenu et non pas sur la façon mettre en page, d'organiser la présentation. Ça permet également la traduction dans différentes langues, puisqu'il y a une interface qui met le manuel en langue originale à gauche et une fenêtre que vous pouvez traduire directement. Donc c'est très pratique. Et nous soutenons la méthodologie Booksprint pour écrire en temps record des livres de qualité. Vous avez quelque chose à ajouter ?
L'idée de produire des livres très rapidement, c'est quelque chose d'assez important. L'expérience que j'avais eue avec Inkscape, j'étais vraiment un peu seul, mais c'était que la nouvelle version d'Inkscape sortait. Alors que je n'ai pas fini de documenter la version précédente. Donc, ce qui fait que les utilisateurs avaient toujours une documentation qui était en retard sur les capacités qu'on fait logicielles. Donc, le fait de pouvoir produire très rapidement un Booksprint avant, après une sortie ou juste avant une sortie d'une release permettrait d'avoir la documentation quasiment un jour immédiatement. Évidemment, le premier effort va être très long puisqu'il y a beaucoup de documentation à produire. Et dès que le logiciel change, après, c'est la plus vite pour les mises à jour suivantes. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très profitable à la fois en projet en termes de communication et à la fois aux utilisateurs en termes d'utilisation et de prise de connaissance du logiciel. Et puis pour un auteur, c'est des fois la question qu'on me pose, mais toi tu as écrit 5 livres qui sont dans le domaine commerce, donc quel intérêt tu as à écrire des livres libres? Mais déjà ils sont libres, ce qui est un intérêt non négligeable. Et deuxièmement, quand on écrit un livre seul, ça prend des mois, tous les soirs, la vivre en A7. Donc là, on se dit, bah, tiens, en 5-6 jours, c'est réglé, on a écrit quelque chose, on a été réglé lent, c'est beaucoup plus sympa. Et puis, il y a quelque chose de bien, finalement.
Vous avez des questions?
Pour la présentation, est-ce qu'il y a des questions sur le projet de façon de
bonjour. Comment faites-vous pour faire une mise à jour sur les manuels principaux pour ne pas avoir à tout revoir pour les traductions? Vous comprenez la question?
Oui.
Alors, il y a quand même une chose, c'est que dans la plateforme, on a décidé de ne pas avoir un système de plus strict. Puisqu'on va pouvoir permettre que selon les futures ou selon les prises de position de certains auteurs, le contenu peut différer d'une version à l'autre quand même. Donc il n'y a pas de système qui dit cette phrase est traduite, cette phrase a été modifiée, il faut la traduire dans la version, etc. Il n'y a aucune obligation de le faire. Par contre, c'est un outil. Donc, il y a des systèmes de diff qui permettent donc, d'aller checker les différences, les limites, avec un QRSS ou avec quelque chose. Ça, c'est une méthode classique. Mais c'est vrai que par rapport à ça, Postmodel a décidé de ne pas être trop intrusif. De laisser vraiment la place aux auteurs et aux variantes qui peuvent s'intéresser. Parce qu'il y a une idée aussi, comme on a été mentionné tout à l'heure, il y a une idée de bouton à remix, évidemment. On va pouvoir après prendre du contenu d'une autre pour produire des documents mélangés. Donc, par exemple, si vous avez un texte théorique sur le logiciel, ça peut être utilisé dans différentes documentations, etc. Il faut que donc, chaque variation puisse évoluer à son rythme, mais pas forcément toujours au rythme de l'origine.
Voici un exemple de version. Donc on peut voir à gauche la corrigé, une version de l'historique de l'écriture. Donc, facile de voir, si on veut vraiment coller à la traduction, facile de voir quel est le mauvais accord.
Autre question ?
Par rapport à ce que dit Antouk avant, le wiki a des avantages qu'il faut être en ligne pour éditer. Donc, dans mon cas, quand je voyage dans un train, j'ai du temps, mais je ne pourrais pas éditer. Quand je suis au Vietnam, à la campagne, quelque part, je n'ai pas d'internet, je peux éditer, je ne peux pas éditer. Je sais que moi sur Linux, il y a des drivers virtuels où on peut charger du contenu, n'importe quel format, qui peut être sur un wiki, d'avoir comme disque local. Est-ce que là, il y aurait des possibilités de développement? Parce que franchement, moi, quand je travaille sur un wiki, c'est-à-dire que je vais être vraiment au bureau, travailler dans le Il y a une voie que vous voyez là.
Eh bien, nous ne sommes pas développeurs. Demain, à l'Empire, le développeur principal du projet sera là.
Oui, c'est un point important. Je pense que Postmanuel héberge lui-même ses propres serveurs de documentation. Donc, il me semble, ce sera vérifié auprès de la dame, il me semble qu'il y a des moyens logiciels de contrôle de version d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, avant de prendre une contrainte, je fais un SBS sur la doc, et après, je peux l'éditer et je peux communiquer après. Ah, je ne vois pas pourquoi ça serait pas fait. On n'utilise pas comme ça, parce que ce n'est pas l'objectif de la plateforme, que les auteurs utilisent des outils de développeurs, on va dire. Mais je pense que c'est.
Et une question sur laquelle on peut reconsulter demain. C'est un peu un peu, donc je vous remercie.